Paysage vibratoire. L'émission de poésie en habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver comme tous les mardis soirs pour un moment sensible et poétique. Et ce soir, c'est une émission spéciale, voilà, pour clore l'année, puisque nous nous retrouverons le mardi 3 septembre. Et cette émission spéciale, bien sûr, j'ai le plaisir de recevoir une femme de culture qui surfe depuis de longues années sur les vagues de la littérature, qui est impliquée dans la valorisation du patrimoine villeneuvois et qui, croyez-moi, en connaît un rayon sur les vieilles pierres. Oui, j'ai le plaisir de recevoir Thérèse Rébé. Bonsoir Thérèse.
Bonsoir Marc.
Alors avant d'aborder ton univers littéraire et particulièrement ta poésie, j'aimerais qu'on fasse un coup de projecteur sur une manifestation annuelle qui se tiendra le dimanche 21 juillet. Et c'est une manifestation qui te tient particulièrement à cœur, à savoir les médiévales de Villeneuve d'Aveyron. Alors, est-ce que tu pourrais dérouler le programme de cette journée?
Avec plaisir. Bon, les médiévales de Villeneuve d'Aveyron sont une fête de la fidélité à notre patrimoine, mais aussi tout simplement une journée de plaisir simple où toutes les générations se retrouvent. Alors, on ne change pas ce qui se passe bien, donc ça va être cette année un petit peu comme les autres. Bon, alors, c'est dimanche 21 juillet. Il y a évidemment dans les rues de la ville le marché des producteurs sur la place des Conques et au long des rues, des parades, des danses, des musiques médiévales avec la troupe exclusivement féminine des Dragons du Cormir, dont nous avons découvert le talent l'année dernière, la troupe Tornal, qui, elle, était venue il y a 2 ans et dont nous avons apprécié particulièrement les percussions, les jeux gratuits sur damier géant pour petits et grands avec le fou et sa dame, et le chevalier des reines de l'histoire revient avec son écuyer nous parler de la chevalerie. À 12h, place des Conques, apéritif médiéval servi par des personnes de l'équipe de Villeneuve médiévale. Et c'est l'hydromel de Riton que l'on dégustera. C'est l'hydromel de Riton qui est notre petite recette personnelle, notre adaptation de l'hydromel médiéval. Et à cette occasion-là, je rends hommage à Riton qui nous a quittés. À 17h30, place des Conques, le spectacle scénique costumé, l'or du Cahorsin. Alors, l'or du Cahorsin, je vous en parle un petit peu. Les gens qui connaissent l'histoire de Villeneuve savent que la famille de Sommade a eu des relations privilégiées avec la famille de Cahors, les Duez, qui ont donné le pape Jean XXII. Et donc, nous imaginerons, pour une après-midi, que cette famille se connaissait auparavant en 1219, c'est-à-dire il y a, bon, comptez, 800 ans. La croisade des Albigeois sévit encore dans le comté de Toulouse, mais certains font des affaires, notamment les banquiers de Cahors, qui prêtent de l'argent à un taux très élevé. L'année a été bonne sur le Cos, alors grâce à ce qu'on appelle maintenant l'optimum climatique, qui a favorisé la culture des céréales, notamment celle du froment, qui est la véritable richesse du Cos. Samuel Duez, le Cahorsin, aurait établi son comptoir, place de l'église à Villeneuve. Évidemment, la place des Conques n'existe pas encore, en 1219. Il aurait épousé Isabelle Delfaux, fille d'un notable local, ruinée. Et grâce à ce mariage et à son insertion dans une bonne ville en plein développement, il compte bien faire fortune. Pour lui, tout se vend et tout s'achète au profit du banquier. Mais tout de même, les gens ne vont pas se laisser spolier sans réagir. Et nous verrons une brochette de Villeneuvois, que ce soit les propriétaires terriens, les nobles et l'église représentée par les Templiers, qui vont essayer de s'opposer à cette course à la fortune du Caorsais. Voilà.
Voilà, on précise que le texte, c'est toi qui l'as écrit.
Mais je vais le dire, oui.
Et je sais que tu es très soucieuse des sources historiques, qu'il n'y ait pas d'anachronisme, qu'il y ait une fidélité historique. Ça, c'est bon à le dire aux auditeurs.
Oui. Voilà, c'est accessible à tout public parce que c'est fait pour que tout le monde puisse comprendre, y compris les enfants. Mais bon, c'est truffé de vocabulaire médiéval pour faire couleur locale. Mais c'est aussi respectueux de ce qu'était la société au XIIIe siècle.
Voilà, qu'était, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais qu'était une époque assez prospère pour l'Occitanie, en général.
Oui, oui, oui. Hein? Alors, c'est une époque à la fois, c'est un moment très fort. C'est un moment où il y a, par exemple, les troubadours qui font florès, c'est le cas de le dire. Il y a, évidemment, le début du gothique. Mais il y a aussi une certaine richesse qui est liée à la terre, puisque la terre, à ce moment-là, il y a un progrès dans les techniques agricoles et dans les productions. Il y a une démographie en hausse, tout irait bien si ce n'était qu'il y a cette fameuse croisade contre les Albigeois. Mais il faut bien se rendre compte qu'au Moyen-Âge, il peut y avoir la guerre dans un village et que l'autre village à côté peut avoir la paix. Si vous voulez, il n'y a pas cette espèce de totalité que nous connaissons aujourd'hui. Il y a une espèce d'autonomie de chaque lieu. Et il se trouve que si Villeneuve a été prise de loin par Simon de Montfort, Villeneuve n'a jamais connu
a pu prospérer. Donc Villeneuve a été épargnée à cette époque-là. Mais enfin, bon, c'est vrai que c'était une époque assez prospère. Tu as fait allusion aux Albigeois. Moi, je suis natif d'Albi. Et cette région a été prospère grâce au commerce du pastel, notamment. Cette fameuse couleur bleue que l'on retrouve dans les vêtements, puis les peintures, les ornementations. Enfin, voilà. Et malheureusement, bon, on connaît l'épisode avec Simon de Montfort qui vient un petit peu écraser tout ça.
C'est-à-dire, il vient surtout le prendre à son profit, puis ensuite au profit du pape et du roi de France. Voilà.
Donc, pour revenir à ce texte, effectivement, tu fais parler ton imaginaire, c'est sous ta plume, mais les références historiques sont rigoureusement exactes. Voilà. Ça, il faut le dire aux auditeurs.
Voilà.
Et c'est quand même très intéressant. Voilà, juste comme ça, pour en parler, les Poulaines, c'est pas le XIIIe siècle.
Non.
Voilà.
Non.
Et quant au château de la Belle au Bois dormant, c'est déjà plutôt Renaissance quand on voit les illustrations. Hein. Mmh. Voilà. Donc, tu évites les anachronismes, et c'est tout à ton honneur. Ce qui me fait poser une question, est-ce que tu possèdes une littérature spéciale à la maison?
Bon, j'ai une formation d'historienne. Bon, ça aide.
Ah, ça aide pas mal. Oui.
Voilà. J'ai beaucoup étudié Villeneuve, les Bastides notamment. Mais au moment où nous sommes dans la pièce, on n'est pas encore dans une Bastide, on est encore dans la Sauveté, qui a été créé au XIe siècle. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'histoire de Villeneuve, qui est le pays de ma famille depuis des générations et des générations, jusqu'à la nuit des temps, mais bon, on n'y était pas, hein. C'est que Villeneuve, c'est une ville où la noblesse n'a pas le rôle qu'elle a ailleurs. Donc, pas de maison de prince, pas de château, ça vous enlevez ça. En fait, ça a toujours été une ville d'artisans et de commerçants. Dès le début. Alors évidemment, il y a la noblesse, mais la noblesse, ce n'est pas elle qui va vraiment gérer la ville.
D'accord, c'était des affranchis comme à Villefranche ou c'était encore un système différent là?
La Sauveté, c'est un système différent puisque c'est autour d'un monastère.
D'accord.
C'est le prieur qui est le grand patron, mais ce prieur, il a l'intelligence de s'appuyer sur ce qu'il appelle les prud'hommes, c'est-à-dire des notables bien assis dans la paroisse, enfin, dans la ville.
D'accord. Voilà, tout ça, c'est fort intéressant. Donc, voilà pour le thème, l'or du Caorsien, donc à découvrir. On ne dévoile pas tous les aspects, bien sûr, on invite les auditeurs à venir voir cette pièce qui se tiendra à 17h30.
Hein. Sur la place des Conques.
Place des Conques,
et voilà. Comme au Moyen-Âge, on prendra son banc, on s'assira, et gratuitement, on verra cette dramatique ou cette comédie plutôt, car c'est évidemment un peu une farce médiévale. Je signale que Marc, qui est près de moi, qui s'appelle Marek quand il chante, interprétera le roi Renaud, et qu'il a mis en musique lui-même.
Voilà. Et c'est bien aussi de préciser que c'est un spectacle gratuit. Hein.
Oui.
Voilà, et que pendant toute la journée, bien sûr, on peut consommer sur place. Il y a des animations, ça commence avec la brocante le matin, etc. Et puis après, on arrive vers la, après dans la représentation médiévale, on arrive dans la soirée. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors, dans la soirée, il y a un dîner médiéval qui est prévu pour 500 personnes. Alors, 500 personnes, c'est parce que c'est une prudence, si vous voulez, parce que la place des conques pourrait contenir davantage de personnes. Mais comme on ne sait jamais si le ciel sera clément, il faut que l'on puisse venir se réfugier dans la salle des fêtes si jamais la pluie menaçait. Donc, nous avons pris nous prenons le même nombre de convives que ceux qui peuvent être accueillis dans la salle des fêtes. Mais bon, nous espérons vivement qu'il fera beau, car après le spectacle du feu se déroule, ce sera toujours les dragons du Cormier, et l'année dernière, ouais, nous avons vu comment elles sont douées et inventives.
Voilà, ce sont des dragonesses, on précise,
oui,
aux
voilà,
auditeurs. Ce sont des filles très sympas, hein, qui nous font un
très joli.
Et très jolies, hein, au demeurant, voilà. Et, enfin, c'est agréable à regarder, surtout quand on festoie, c'est très, très sympa.
Voilà. Et ensuite, Bernard Serre nous fera un spectacle laser avec un peu de feu d'artifice. Et enfin, il y aura, pour ceux qui ont envie de danser, un bal traditionnel.
Très bien. Eh bien, écoute, avant de poursuivre plus en avant notre discussion et de parler spécialement de ton écriture, on va faire une pause musicale avec le groupe Malicorne, Branle de la Haye. C'est un musical. Vous êtes bien sûr CFM Radio 90.2 à l'écoute de l'émission Paysage Vibratoire. Vous savez, cette émission, on aborde la poésie. Hein, ça fait des mois que l'on aborde ça ensemble. Et de temps en temps, ben, je reçois des invités de passage. Ce soir, c'est Madame Thérèse Rébé. Nous avons parlé pleinement déjà de la manifestation prochaine du 21 juillet, à savoir les médiévales de Villeneuve. Ce qui nous amène à parler tout naturellement de son écriture. Alors, en parlant de ton écriture, d'abord une petite question très simple que je pose en général. Tu as des moments pour écrire? T'es plutôt du matin, du soir? Tu as des jours spéciaux? Ou ça vient comme ça?
Non, je peux me mettre n'importe quand dans mon ordinateur maintenant. Ça marche.
Ça marche, d'accord, ok. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas de mois spéciaux, non, c'est quand ça vient? C'est toute l'année, en fait, que tu écris?
Oui, alors, ça dépend en quelle forme d'écriture. La poésie, c'est la plus difficile. Mm-mm. La poésie, il faut que je l'ai mûrie longtemps en moi. Et évidemment, je la pose sur le clavier quand j'ai l'occasion, mais il y a d'abord un mûrissement intérieur.
Oui, oui, bien sûr, hein, c'est sûr.
C'est la chose la plus difficile à écrire. J'écris toutes sortes de choses. Ça va de l'essai philosophique jusqu'à l'article de presse. Mais ce qui est le plus difficile, c'est la poésie.
Et c'est plutôt une poésie contemporaine, en prose, en vers,
Il y a deux formes de poésie chez moi. Il y a la poésie en vers, mais moderne, c'est-à-dire pas le sonnet. Je n'ai pas eu envie d'entrer dans le sonnet ou dans les formes fixes.
D'accord.
Par contre, la poésie, pour moi, c'est quelque chose qui est sans concept, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir de mots dits intellectuels, il doit y avoir que des images et que des sons.
D'accord. Tu travailles plus sur la métaphore et le verbe qui sonne, en fait. C'est une musique.
Voilà, c'est une musique.
C'est une musique. D'accord, très bien. Et, mais bon, tu n'écris pas que de la poésie. Hein. Tu as aussi, j'ai entre les mains, par exemple, Les Maisons de Célina. Donc, c'est un recueil de contes et de nouvelles.
Oui.
Et en parlant, d'ailleurs, des Maisons de Célina, si, je te cite à la page 65. Oh, on note quand même cette poésie rurale,
oui,
chez toi, très,
oui,
très prégnante.
C'est sûr, voilà.
Voilà, je te cite. « Il gardait ses brebis sur le cosse blanc. Enfant, je l'y suivais. Il s'asseyait sur la murette et il regardait très loin, au-delà des croupes paisibles de son troupeau. Son regard délavé cherchait-il le point où se dissout l'horizon dans la fusion opaque de l'argile vaporeuse et de la brume claire ? S'enchantait-il, justement, de l'errance du ciel instable ? Je ne l'ai jamais su. » Etc. On encourage les auditeurs à se procurer ce recueil des Maisons de Célina. D'ailleurs, ces ouvrages, on peut les obtenir où ?
Eh bien, de toute façon, auprès de l'éditeur, qui s'appelle, c'est les
éditions du
Bon
Albert, voilà.
Qui sont en Asbinal, en Lozère, mais aussi on peut les commander dans une librairie. Y a pas de problème.
D'accord, voilà, tu as des
et
dépôts
librairies. Et puis, à l'heure actuelle, on peut les trouver à la boutique éphémère de Villeneuve, qui est ouverte le week-end, à l'ancienne caisse d'épargne, où on le trouvera tous les jours, sauf le lundi, dans cette boutique à partir du mois de juillet. Ça sera ouvert juillet et août.
D'accord. Et je crois qu'aussi, hors antenne, tu m'avais expliqué que sur le net aussi, tu as une présence. Tu as un site peut-être ?
Non, mais ma maison d'édition, on la trouve sur Internet, il n'y a pas de problème. C'est une maison d'édition qui dure depuis longtemps
voilà,
déjà.
Tu as une relation un peu particulière avec cette maison d'édition, c'est une longue histoire.
J'ai une relation particulière avec cette maison pour deux raisons. C'est que c'est à cause de Giono. L'épouse de l'éditeur est spécialiste de Giono et moi j'adore Giono. Donc nous nous sommes rencontrés il y a déjà de longues années, c'était bien avant l'an 2000. Et nous avons une amitié très forte. Et le même désir de parler de la terre en particulier, de la nature et de la musique. Nous avons donc des liens très forts, et puis aussi de la liberté, d'une liberté qui ne s'achète pas.
Ah, ça c'est très bien que tu le soulignes, ça s'achète pas, voilà, tout ce monde n'est pas dans ce monde. Voilà, c'est ce qui fait la liberté des créatifs,
voilà.
Tant qu'on pourra écrire librement. Justement, je voulais parler de tes influences, tes sources d'inspiration, dont on a compris quand même, ta terre, hein, que tu affectionnes
voilà,
beaucoup.
Bien
hein.
Sûr.
Voilà, vu l'image que je viens de lire. D'autres sources d'inspiration historiques, évidemment,
voilà.
Puisque tu as écrit...
Et puis, il faut quand même dire aussi que je suis philosophe de formation, je suis maître en philosophie, et j'ai écrit ma maîtrise était sur Blaise Pascal, la dialectique pascalienne. Et là, j'ai compris que l'homme, un des hommes les plus intelligents de la Terre, avait su exprimer dans une langue que j'appellerais une langue de feu, mais merveilleusement belle, les choses les plus profondes. Parce que, finalement, et c'est ça qui m'a déterminé à être un écrivain, parler à tout le monde, c'est merveilleux. Il ne faut pas réserver ce qui est fort et ce qui est beau à une élite. Et il ne faut pas s'adresser qu'à l'intelligence, il faut s'adresser au cœur.
Absolument, voilà. Les sentiments aussi.
C'est ça. C'est pour ça, l'influence de Blaise Pascal a été absolument déterminante pour moi, parce que c'est vraiment un homme dont j'ai admiré le génie, l'intensité, et qui a une langue absolument sublime et simple.
Voilà. Voilà, pas élitiste, justement,
non, voilà.
Qui s'adresserait qu'à un cercle très intellectuel.
À l'époque, il voulait que les femmes comprennent.
Bon, bah écoute, c'est gagné. Tu en es la preuve vivante, voilà.
Ah oui.
Oui, très bien. Bah, bon, très très belles influences, bien sûr. Voilà. Alors, des contes et des nouvelles. Bon, on s'y promène. Tu as
des
combien...
romans aussi.
Des romans. Tu as combien d'ouvrages à ton actif?
Alors, j'ai publié il y a très longtemps et ça a été très vite épuisé. La théière bleue. Ensuite, j'ai publié Hilaire Marty, qui en est à sa deuxième édition. J'ai publié, ça c'est un roman, Hilaire Marty, c'est le roman du Cos. J'ai publié Claire Alibert et la beauté du monde. Ensuite, Les maisons de Célina. Le miracle du pendu des pendus, ça c'est un récit basé sur l'histoire. Et ensuite, je viens de publier, il n'y a pas longtemps, Le regret de Lisou, sans oublier un livre sur Villeneuve, qui est que j'appelle une promenade amoureuse. C'est-à-dire qu'on est invité à se promener en ayant un regard un peu enrichi sur le patrimoine de Villeneuve. Voilà.
Très bien. Et chaque année, bien sûr, t'écris la pièce pour les médiévales.
Oui.
Donc, bon, voilà, t'es très prolixe.
Je suis à la 21e.
Ok, c'est la 21e histoire.
Oui, parce qu'avant, on faisait simplement quelque chose de beaucoup plus simple. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi faire une parade? On va faire une pièce, carrément.
D'accord.
Voilà, dans l'esprit du Moyen-Âge.
Très bien. Mais écoute, on va faire une deuxième pause musicale avant d'aborder strictement ta poésie. C'est une danse du Moyen-Âge du groupe Lloyd Dana. Alors, ce que l'on entend en introduction du morceau, en solo, c'est la chalémie. C'est un instrument assez puissant, qui est l'ancêtre du hautbois et de la bombarde. Ça pouvait se jouer sur les places publiques. Ben, écoutez plutôt. Ça percute médiéval. Alors, c'est le moment de la lecture poétique. Alors, nous écoutons ton choix, Thérèse.
Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que quand j'étais enfant, une toute petite fille, autour de moi, dans ma campagne natale, il y avait des vieilles femmes en robe noire qui parlaient toujours occitan, enfin ce qu'on dit occitan aujourd'hui. Et cette langue m'a bercée. Et elle m'a bercée si profondément, elle m'a touchée si profondément, que j'ai eu beaucoup de mal ensuite à m'exprimer en français. Et pour arriver à écrire en français, à part la philosophie, je suis passée par cet hommage à la langue nostra, c'est-à-dire à l'occitan. Car en fait, je suis une écrivaine, si l'on peut dire, qui écrit en français avec des sons occitans. Car mon paysage, c'est finalement toujours ce paysage de mon enfance, avec ses accents que je n'oublierai jamais.
D'accord, la culture occitane qui est prégnante voilà. Dans ta personnalité. Voilà, ok. C'est presque une traduction immédiate que tu nous fais.
C'est pas vraiment parce que l'occitan est une langue de situation, c'est-à-dire que c'est une langue beaucoup plus affective que le français, beaucoup moins analytique. Bon, alors la philosophie m'a appris le français, c'est certes, et c'est ma langue maintenant, il faut bien le dire. Mais j'ai gardé de l'occitan ce sentiment d'être en situation.
D'accord. Elle est peut-être plus précise, plus émotionnelle.
C'est une langue plus corporelle. On est dans le corps, on est dans le mouvement, d'accord. On est dans le ressenti davantage.
Ok. Ben, nous t'écoutons.
Lingua nostra. Je ne te parle plus ta langue maternelle. Mes lèvres articulent des mots étranges à ton passé. Mais j'entends, lorsque l'automne déferle, vent fou, vent roi, les chênes murmurent tes voyelles plénières, et la terre répète tes consonnes sonores. Mon pays, longtemps je me suis tue. Je ne savais pas dire l'éclat de tes pierrailles au ciel blanc de midi. Non plus l'eau qui ruisselle sur la margelle d'un puits rond, quand se calme la rumeur du seau. Et que s'apaise l'eau pure et profonde, ni la paix de tes soirs à la chute tendre du jour, quand l'Angélus résonne du fond de l'horizon, et que les chemins creux vibrent au pas des troupeaux repus. Mais la fidélité a d'étranges recours, je te parlerai de toi quand même.
Très bon, merci Thérèse. Alors un autre texte peut-être, hein, sous la main.
Oui, alors le bonheur de la nature, le bonheur d'être au contact avec la nature, cette simplicité, cette harmonie, j'ai essayé de l'exprimer dans Aurore. À l'est, il fait si clair que la couleur est tendre, si douce sur la cime des bois, un voile d'églantine vole. Au pied de la colline, l'émeraude brille. Auprès, l'herbe mouillée s'allume de lucioles fragiles que le pas détruit. Je marche vers un ciel si léger. Derrière le silence, le concert des oiseaux. Et je m'éveille aux rayons qui transpercent le chêne en plein cœur.
Très bien, mais tu fais aussi de la poésie en prose. Hein ?
Oui. Alors, dans mes nouvelles sont une façon d'écrire de la poésie en prose. Bon, voici un crépuscule dans Le secret de Sarah. C'est le crépuscule, c'est la tombée du jour, disons, à la veille de Noël. Lucie ne peut pas dormir. Dès que son regard se pose sur le vase de la cheminée, sur la pendule du salon, sa mémoire fait le douloureux inventaire de tout ce qui a été et ne sera jamais plus puisque sa mère est morte. Malgré l'heure tardive, elle cède au désir d'ouvrir la porte et de sortir. Des myriades d'étoiles brillent comme jamais dans un ciel bleu de Prusse. Leur vive clarté débusque les formes ciselées des rosiers aux fleurs mortes et fixe sur l'horizon le chevelu puissant du pommier du jardin. Il a suffi d'un vent du nord pour chasser la brume insistante qui a noyé la journée dans la grisaille. Le rideau de brune poisseuse dont les gouttes tombées s'embruient sur le sol humide a été déchiré par ce triomphe des astres. Le premier croissant de lune s'est posé sur la masse obscure de la colline. C'est le solstice d'hiver.
Très beau, c'est très pictural, hein, des myriades d'étoiles sur un ciel de Prusse, en fait. Mais je crois que tu es amoureuse aussi de la peinture, en fait, tu t'intéresses à tous les arts.
Hein. Oui, évidemment, je m'intéresse à tous les arts, oui, voilà.
Très bien, merci beaucoup pour ta lecture. Eh bien, on conclura cette émission par un choix poétique, donc tiré de ton recueil Le regret de Lisou. J'ai choisi à la page 58, Rupture. Alors c'est peut-être pas forcément le poème le plus joyeux, mais je trouve qu'on peut s'identifier, ayant vécu peut-être une rupture. Ton regard traverse le temps, rouvre mon cœur sa fêlure quand je t'oublie. L'amour est morte, les cendres refroidies crépitent si le vent du soleil touche d'un rayon blanc les tisons du regret. Tu défies de tes mains les liens de ma tendresse. Je te fuis. Et l'espace entre nous ne peut plus se franchir. Les mots sont abolis, les gestes en suspens n'étreignent que le vide, l'absence désirée et crainte. Tout en creux sur la mer de nos vies, vogue à mille nœuds le fantasque vaisseau de ce qui fut nous deux. Voilà, c'est par ces paroles que nous achevons notre émission. On va peut-être rappeler sommairement le programme de Villeneuve. Donc, le 21 juillet, ça commence dès le matin avec la brocante.
Oui, le marché.
Le marché.
Les parades, les troupes.
Voilà, ça défile voilà. Dans les rues hein, aussi. Hein,
oui, voilà.
Et puis, le fameux apéritif d'hydromel. Mmh. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ?
Ben, y a toujours les troupes l'après-midi,
voilà.
Plus le spectacle scénique lors du Chaos.
Ah oui, on a oublié quelqu'un, celui qui joue aux dames.
Ou le fou et sa dame,
et le fou et sa dame.
Tout à l'heure.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Ouais, le fou et sa dame, c'est quelqu'un de génial et très intéressant, qui gagne sur tous les tableaux, lui. Il est mieux que le Caorsin, il gagne sur tous les
tableaux. Ah, lui, il est très fort.
Il est très fort.
Voilà. Oui, parce qu'il joue en même temps avec plusieurs
oui,
damiers,
voilà.
Hein, faut le dire. C'est déjà un spectacle en soi, non? C'est
voilà.
Super, ça, comme truc. Ouais. Donc, on rappelle, à 17h30, bien sûr, le spectacle scénique. Et puis la fameuse soirée avec les ripailles et le show laser, les représentations avec les filles, avec le spectacle de feu. Et si je n'ai rien oublié. Si, je crois que non, il n'y avait pas un derviche tourneur cette année.
Si, cette année, il y aura un derviche tourneur parce qu'on n'est pas raciste à Villeneuve. Hein. La culture même du 13e, c'était aussi l'ouverture notamment par l'Espagne à la culture arabe. Ou musulmane. Et le derviche tourneur, c'est un homme qui fait un spectacle magnifique avec ses multiples robes. On verra ça. C'est quelque chose de vraiment très spectaculaire.
Ouais, ouais, voilà, c'est très,
un moment de magie.
Très joli. Voilà. Eh bien, je te remercie, Thérèse. Avant de se quitter, une petite annonce aussi en ce qui concerne CFM Radio et l'association Parole Vive. Nous organisons demain soir une rencontre poétique sous les arbres avec un pique-nique partagé. Voilà, le principe, c'est l'échange citoyen, si c'est encore une résonance parmi nous, je l'espère. Voilà, une fraternité citoyenne, de partager un moment, de partager de la poésie, puisque les membres de l'association liront des poèmes. Et moi, j'aurai l'occasion de vous chanter quelques chansons de ma composition. Alors, venez nombreux, parce que le cercle des poètes, vous voyez, s'élargit. Donc, c'est demain soir, à partir de 19h. Si le temps se gâte, là, c'est pareil, on peut se replier à la salle des fêtes. Mais apparemment, ils ont prévu du beau temps, même de la chaleur. Alors, de la chaleur, mais on sera sous les arbres à côté d'un cours d'eau. Ça peut être très sympathique. Voilà, je remercie aussi Lucas à la sonorisation. Je vous dis au 3 septembre, passez de très bonnes vacances à l'écoute de nos programmes. Et on se quitte avec le groupe Malicorne, Le mariage anglais. Bye bye.
C'était la fille d'un roi français que l'on marie à un anglais. Oh, mes chers frères, empêchez de m'emmener. J'aimerais mieux soldat français que roi. De
Paysages vibratoires. L'émission de poésie, un habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio.